D'ailleurs qu'un certain nombre parmi vous la connaissent déjà, puisque elle nous a déjà fait l'amitié d'intervenir dans des de conférences de cette bibliothèque. Elle est elle-même une personne fréquentant notre bibliothèque. Et puis aussi, elle participe à la publication des sources franciscaines, qui sont maintenant sur le point de paraître. Je crois que c'est le 24 mars prochain. On trouvera en librairie le nouveau totem en 2 volumes. C'est un ouvrage considérable qui a été donc travaillé pendant plusieurs années pour aboutir à cette parution. Et Isabelle a participé à l'équipe qui s'est donné beaucoup de mal pour cette publication. Alors Isabelle Hugandonna est professeure d'histoire et d'histoire médiévale à l'université de Champagne-Ardenne, à Reims, je suppose.
Oui, ça n'a pas bougé.
Elle est aussi l'auteur de nombreux articles intéressants, le 13e, 14e et même 15e siècle, en particulier sur ce qui concerne l'Italie. Et en Italie sont nés les franciscains. C'est donc qu'elle s'intéresse depuis longtemps à l'histoire des franciscains, leur origine, leurs difficultés qui ont coïncidé avec la naissance de l'ordre, et puis également les tensions à l'intérieur de l'ordre, même parfois les schismes. Et donc, elle-même a publié de nombreux articles sur l'Italie, sur les congrégations religieuses en Italie, sur les franciscains en particulier, et puis également sur les martyrs. Elle a publié récemment une contribution assez importante dans les mélanges Hervé Martin, lui-même un médiéviste, sur un breton, sur les martyrs franciscains. Alors elle doit précisément nous parler des martyrs franciscains et du rapport qu'il y a entre le souvenir des martyrs et l'identité franciscaine. C'est un sujet assez délicat. Je pense qu'elle nous apprendra beaucoup de choses, connaissant son exigence critique, son sens historique, et puis sa bienveillance pour les sources et pour ses auditeurs. Je pense que nous serons comblés. Alors merci beaucoup Isabelle.
Merci beaucoup frère de votre accueil et de cette beaucoup trop longueuse introduction. Beaucoup trop orangeuse à mon endroit. Alors je suis extrêmement heureuse de me retrouver là ce soir, d'autant que vous avez précisé que je suis une habituée de la maison, mais hélas, depuis que je suis professeure à l'université de Reims, j'y passe quand même beaucoup moins de temps que par le passé, ce qui me désespère. Donc ma joie est d'autant plus grande que je retrouve ce chemin que j'ai beaucoup fréquenté au début des années 2000 et jusqu'en 2007, moment où les choses ont dû un petit peu se modifier. Alors, pauvre martyr, c'est un titre qui ne se veut nullement provocateur, même si, effectivement, lorsqu'on parle des franciscains, l'idée qu'ils puissent être des martyrs n'est pas la première qui vient à l'esprit. Alors, je vais essayer de vous dire comment et selon quel type de source. Vous allez voir que parfois le travail historique repose sur des toutes petites choses. J'en suis arrivée à la conclusion que le corpus des martyrs franciscains, dont je vais aussi un petit peu vous entretenir, avait été mis en œuvre d'une certaine manière et dans certaines conditions. Car je crois qu'il faut le rappeler de manière liminaire, et il y a dans le public une éminente collègue qui a commis un très très bel ouvrage sur ce sujet, Marie-Françoise Basselès, et qui a rappelé dans son ouvrage ce que les historiens savent et qu'il ne faut jamais oublier quand on fait de l'histoire, c'est que le martyr est d'abord et avant tout une représentation. La représentation qu'une communauté se fait de la mort des siens. Alors, mon point de vue est celui-là. C'est-à-dire que je ne m'aventurerai pas dans des domaines qui ne relèvent pas stricto sensu de l'histoire, parce qu'il y a évidemment, de manière connexe, toute la question de la spiritualité du martyr, à laquelle je m'intéresse par ailleurs, hein, mais qui convient de ne pas mélanger de façon liminaire avec la manière dont une communauté décide à un moment d'organiser la mémoire de ses saints, au-delà de la reconnaissance dont ils peuvent jouir, soit par la papauté, soit même par les membres de la communauté eux-mêmes. Ces précautions étant prises, je commencerai par vous raconter une petite anecdote assez longuement. Au printemps 1322, le pape Jean XXII, qui officiait alors, réunit plusieurs consistoires afin de recueillir l'avis des membres de la curie et de certains ecclésiastiques de passage à Avignon, où il était installé, comme vous le savez. Il réunit ces consistoires sur la question de savoir si affirmer que le Christ et les apôtres n'avaient rien possédé ni en propre ni en commun était hérétique ou pas. Au cours de l'un de ces consistoires, un échange aussi vif que long aurait eu lieu entre le pape Jean XXII et Jérôme, vieil évêque franciscain de Caffa, l'un des ports de la mer Noire les plus fréquentés par les Occidentaux. Ce frère avait d'abord œuvré en Grèce à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, avant d'être envoyé chez les Tartares, puis de s'installer à Caffa, qu'il parvint à faire ériger en siège épiscopal en 1318. Il faut rappeler que le comptoir de Caffa est un comptoir extrêmement important où sont installés depuis les années 1260 à peu près des marchands génois et une relativement importante communauté de marchands italiens, de sorte que ce port de Crimée est devenu, à partir des années 1280-1290, une métropole économique de la mer Noire tout à fait importante. Invité donc par le pontife à donner, après d'autres, son avis, l'évêque Jérôme dut donc se prononcer sur la question posée et il aurait répondu, probablement à juste raison, qu'il était bien difficile pour lui d'admettre que la profession du bienheureux François, dont la règle commandait de ne rien posséder ni en propre ni en commun, était hérétique, ce que la Decretal Exit Qui Seminat avait admis en déclarant que cette règle et vie fut celle que le Christ enseigna par la parole et affirma par l'exemple. Il ajoutait en outre que cette règle avait été approuvée et confirmée par de nombreux pontifes romains, y compris Jean XXII lui-même, qui lui posait la question comme à d'autres. Et donc, concluait-il, la religio, comme on dit dans les textes médiévaux des franciscains, était la vigne du Christ elle-même, étendant ses sarments jusqu'à la mer, c'est-à-dire jusque chez les infidèles. Et il aurait ajouté qu'il n'y avait pas de royaume, pas de langue, pas de nation, parmi lesquelles les frères mineurs ne se soient trouvés ou ne se trouvent encore pour prêcher la foi de l'Église. Il aurait conclu enfin « In ogni luogo il sangue loro è sparso, incominciando da Maroccio, infino in India. » Et si je cite ce texte en italien, ce n'est pas par cuistrerie, mais c'est parce que c'est dans cette langue qu'il nous a été transmis. Et donc je traduis, il aurait donc déclaré, pour conclure son propos, « Partout, leur sang est répandu, en commençant par le Maroc jusqu'à l'Inde. » Alors ce que je viens de vous raconter, c'est une traduction à peine libre de ce texte qui nous est transmis et dont je vais vous entretenir un petit peu. Mais avant cela, je voudrais dire deux ou trois choses. Au moment même où Jérôme présenta son argumentation, dont je ne vous cite qu'un petit extrait, ce que l'on a l'habitude d'appeler la querelle de la pauvreté battait tout à fait son plein. En effet, la question du type de pauvreté que les frères mineurs entendaient observer avait presque dès l'origine provoqué des tensions au sein de l'ordre d'abord. Elle conduisit les papes à intervenir dès 1230 et elle fissura quand même quelque peu la communauté à l'intérieur de laquelle le courant des spirituels, ces franciscains très attachés à la lettre de la règle, donc elle fissura cette communauté à l'intérieur de laquelle ce courant se forma. Ces spirituels, comme vous le savez peut-être, contestaient les aménagements successifs introduit dans l'application de la règle, alors même que ce qu'on appellerait aujourd'hui le principe de réalité commandait de prendre en compte les évolutions d'une communauté transformée en un ordre devenu dès les années 1230 très nombreux et qui s'institutionnalisa. Élu le 7 août 1316, Jean XXII réprima fermement la dissidence des spirituels avec l'accord des ministres de l'ordre et avec l'assentiment d'une partie de la communauté. plaçant l'obéissance en tête des vertus que les frères devaient observer, devant la chasteté et devant la pauvreté, hein, c'est la constitution Quorundam exigit de 1317, ils condamnent donc les spirituels et tous ceux qui se rattachaient à eux sous des dénominations diverses. Quatre franciscains spirituels languedociens, particulièrement récalcitrants, furent d'ailleurs envoyés au bûcher en mai 1318 à Marseille. Et plusieurs béguins, on appelait comme ça des laïcs, les soutenaient et partageaient leurs convictions. Plusieurs béguins, donc, connurent un sort semblable entre 1319 et 1322. Quant à la querelle à proprement parler, la querelle de la pauvreté, pour savoir en quoi consistait cette pauvreté, et surtout, encore une fois, si elle était fondée sur l'expérience sensible vécue par le Christ et les apôtres, elle s'ouvrit dans un contexte, là encore, très particulier. Elle s'ouvrit après l'arrestation en 1321, donc avant le consistoire que j'évoquais tout à l'heure, d'un béguin de Narbonne à l'initiative de l'archevêque du lieu et d'un inquisiteur dominicain, Jean de Beaune, peu importe. Et donc le béguin en question avait été arrêté parce que justement il prêchait que le Christ et les apôtres n'avaient rien procédé, ni en propre, ni en commun. Comme il était tenu de le faire, je suis au regret de vous le dire, l'inquisiteur rassembla alors les prieurs, les gardiens, les lecteurs des religieux et autres personnes sages, je cite le texte, et il leur fit lecture d'une liste d'erreurs du béguin en question. À ce moment-là, Béranger Talon, lecteur du couvent des franciscains de Narbonne, refusa de considérer l'assertion du béguin comme hérétique. On le comprend. Sommé par l'inquisiteur de retirer son objection, il fit appel au pape et se présenta à Avignon, comme c'était possible et normal. Il fut alors entendu lors d'un premier consistoire, ce Béranger. Et puis, il fut mis aux arrêts, et Jean XXII, face à un problème qui manifestement l'ennuyait, décida de solliciter largement l'avis des prélats et des théologiens présents à la curie pontificale afin de trancher cette question. C'est donc dans ce contexte que Jérôme de Caffa, l'évêque franciscain que j'évoquais tout début de mon propos, aurait donné son avis. Cette délicate question étant finalement tranchée par une constitution demeurée fameuse, intitulée « Cum inter non nullos », promulguée le 12 septembre 1323, pour être exact. Constitution qui condamnait comme hérétique l'assertion selon laquelle le Christ et les apôtres n'avaient rien eu. Et c'est le « rien eu » qui est important. Sans toutefois, grande prudence pontificale, préciser la manière dont ils avaient possédé des biens, la nature de ces biens n'étant d'ailleurs elle-même pas du tout précisée. Autrement dit, j'attire votre attention sur ce petit point de détail qui est un peu périphérique par rapport à mon propos, mais Jean XXII a très mauvaise presse. C'est assez injuste, je dois dire, car c'était un grand juriste et il avait le sens de la précision et de l'exactitude, et surtout cette constitution, encore une fois, si j'insiste sur le détail, c'est qu'elle laissait une porte ouverte. Alors, je ne vais pas reprendre ici le débat sur la fiabilité, fondamentale par ailleurs, sur la fiabilité de la source qui transmet au style direct ce merveilleux témoignage dont je vous ai cité une seule phrase, qui entend être le témoignage vivant, saisi presque sur le vif de ce Jérôme de Caffa, et d'ailleurs de plusieurs autres prélats franciscains et dominicains qui s'affrontèrent alors lors des divers consistoires. Malgré tout, l'honnêteté commande de préciser que ce texte est une interpolation qui figure dans la traduction italienne, d'où la langue, de la chronique dite de Nicolas Minorite, ou encore Nicolas de Freising. Alors ça ne vous dit peut-être rien, mais en fait, vous la connaissez. car c'est cette chronique qui est devenue justement célèbre parce qu'elle a servi de fondement à Umberto Eco pour écrire Le nom de la rose. Il a tout pris dedans, avec le panache qu'on lui connaît. Donc nous sommes en plein nom de la rose. Alors donc je ne reviens pas sur le détail parce que ça risquerait d'être un petit peu ennuyeux, mais évidemment cette question est tout à fait essentielle. Simplement je rappellerai qu'il s'agit d'une compilation de textes rédigés par les principaux auteurs du conflit, essentiellement Michel de Cézanne et Jean 22, et d'une œuvre de propagande, assurément, réalisée par un auteur acquis à la cause des michelistes, c'est-à-dire des partisans de Michel de Cézanne, qui travailla après 1328, date de la fuite du dit Michel de Cézanne auprès de Louis de Bavière. Tout cela est bien raconté dans Le nom de la rose. Alors le dossier de source permettant de connaître les étapes de la querelle et les arguments échangés a été récemment repris par les chercheurs, et il est clair que cette propagande, orchestrée dès le début des années 1320, à partir de 1322, a contribué à exagérer la violence et l'affrontement entre les franciscains et le pape chez les historiens. C'est-à-dire que, comme il arrive, Dieu merci, assez fréquemment en histoire, on a été amené à bien regarder les choses, à réviser un petit peu les positions. Autrement dit, Jean 22 n'est pas le vieux barbon féroce que l'on dépeint parfois, à mon avis, même tout au contraire. Cependant, œuvre de propagande donc, que les choses soient claires. Cependant, il n'y a pas de raison valide, historique et philologique, de douter que de tels échanges eurent lieu durant les consistoires réunis par Jean 22, même s'il convient de faire preuve de circonspection quant aux attitudes et aux propos prêtés justement à Jean 22 et aux prélats présentés comme ayant participé à ces consistoires, sachant d'ailleurs qu'on a un petit peu de mal à savoir le nombre exact de ces consistoires, est-ce qu'il y en a eu deux, est-ce qu'il y en a eu trois, est-ce qu'il y en a eu quatre, et les dates, peu importe. Alors vous allez me dire, où seront les martyrs dans cette affaire? Je vais y venir, ne vous inquiétez pas. Mais je déroule ma démonstration en espérant ne pas trop vous ennuyer avec ces détails. Mais le contexte est extrêmement important. En fait, les propos de Jérôme de Caffa, hein, leur sang est répandu partout dans le monde, depuis le Maroc jusqu'à l'Inde, dans le cadre de la prédication de la foi de la Sainte Mère, l'Église, dit-il, lui a permis d'introduire de cette manière la question des martyrs franciscains dans le débat sur la pauvreté. Autrement dit, on est en train de discuter de ce problème, de cette question de savoir ce qu'ont possédé le Christ et les apôtres et si oui ou non ils ont possédé quelque chose. Et dans l'argumentation déployée par Jérôme de Caffa, surgissent ces martyrs. Et cette question des martyrs, qui surgit donc dans le débat sur la pauvreté, surgit à un moment où, du côté des spirituels et des béguins persécutés que j'évoquais tout à l'heure, d'aucuns avaient tendance à penser que ceux qu'on avait conduits au bûcher étaient eux-mêmes des martyrs. Du reste, on a conservé un document tout à fait merveilleux, c'est un martyrologe présenté en 1354, donc une trentaine d'années après les faits que j'évoque, lors d'un procès devant l'Inquisition de Carcassonne, lequel martyrologe égrène 113 noms de béguins qui sont systématiquement inscrits et de manière organisée. Et puis on a toutes sortes d'autres textes, par exemple Jean de Roquetaillade, je ne sais pas si c'est un auteur que vous connaissez, c'est un auteur fabuleux, hein, qui a écrit, qui a fréquenté les geôles avignonnaises plus que de raison, et qui a été très prolifique. Bref, qui fait lui aussi, allusion à ces martyrs rassemblés dans un martyrologe par ces béguins persécutés et par les spirituels persécutés. Donc, voyez comment j'essaye de nouer finalement deux fils, et je vais essayer de voir comment la question des témoignages au sujet des martyrs de l'ordre auxquels Jérôme de Caffa fait allusion repose dans la documentation sur la constitution à partir des quelques années qui précèdent son intervention, c'est-à-dire à partir de 1310-1312, c'est un peu difficile disons 1315, c'est un peu difficile de donner une date butoir ferme, repose donc sur la constitution d'un corpus de martyrs dans l'ordre, c'est-à-dire sur une volonté clairement conçue et parfaitement exprimée de rassembler un certain nombre d'éléments autour de frères morts dans des circonstances particulières. Et donc, c'est à partir de ces deux points-là que je vais essayer de vous proposer une interprétation de la signification des allusions aux martyrs franciscains dans ce contexte-là. Parce que finalement, quand j'ai commencé à travailler sur les textes, notamment d'abord sur les textes du XIIIe siècle, à part que ces frères sont bien connus des franciscains, enfin, surtout ceux de Marrakech de 1220, un peu plus aussi ceux de 1321 à Tana en Inde, mais il y en a toute une série d'autres qui sont très méconnus aujourd'hui. C'est surtout les martyrs, les premiers martyrs franciscains, ceux de Marrakech, qui ont retenu l'attention. Et ce qui m'a frappé à mesure que j'avançais, c'était de comprendre pourquoi tout à coup, au XIVe siècle, on a vu une explosion de la littérature sur la question, non pas seulement la littérature d'ailleurs, parce que, sachez par exemple, peut-être que d'aucuns parmi vous ont déjà vu cette fresque, le couvent franciscain de Sienne abritait une magnifique fresque qui représentait les martyrs de Tana, et elle a été peinte par Ambrogio Lorenzetti, ce qui veut dire que les frères, ou plutôt les protecteurs des frères, avaient dépensé une somme probablement assez considérable parce que cette fresque a été peinte entre 1336 et 1341, à un moment où Ambrogio Lorenzetti était une star. Donc ça a été très coûteux. De sorte que, si vous voulez, il y a un certain nombre de martyrs qui sont un peu identifiés, mais finalement, quand on ramène ça au corpus qu'on peut trouver dans les sources, c'est pas beaucoup. Et ce qui m'a intéressé, et je me suis posé la question de savoir comment finalement les choses s'étaient construites. Alors, en mentionnant le sacrifice des frères du Maroc jusqu'à l'Inde, et vous voyez que, parlant en 1322, il embrasse toute la chronologie depuis 1220, les premiers martyrs franciscains, en tout cas ses frères tués à Marrakech, jusqu'à 1321, c'est-à-dire les martyrs de Tana en Inde. Donc, en évoquant le sacrifice de ses frères du Maroc jusqu'à l'Inde, le très vaillant évêque de Caffa, qui a une verve tout à fait intéressante, c'est un très très beau texte, vraiment un très beau texte, je comprends que ça ait pu séduire Umberto Eco, se référait à une série de martyrs donc qui commença en 1220, qui s'acheva en 1321, et qui effectivement sont, encadrés dans des contextes géographiques et politiques très précis. Premier frère qualifié de martyr, les franciscains de Marrakech sont bien attestés dans les sources du XIIIe siècle, même si au XIIIe siècle, ce détail a son importance, les sources ne mentionnent jamais ni leur nom, ni même de détails quant aux circonstances de leur exécution. La plus ancienne de ces sources que j'ai pu repérer, et je crois que c'est la plus ancienne véritablement, qui mentionne les premiers martyrs franciscains de Marrakech. Et la Legenda Assidua, c'est-à-dire la première vie d'Antoine de Padoue, rédigée après sa canonisation, entre 1232 et 1239. C'est la plus ancienne mention. Et la Vita d'Antoine de Padoue raconte que les reliques de ses frères martyrisés à Marrakech furent rapportées à Coimbre, au Portugal, par l'infant Pierre, frère cadet du roi du Portugal Alphonse II, qui était, cet enfant Pierre, chrétien bien sûr, chef de la milice des mercenaires chrétiens au service du calife Almohade, tout ça est très normal. Et donc que ces reliques auraient été déposées auprès des chanoines de Sainte-Croix, chanoines de Saint-Augustin, de Sainte-Croix de Coimbre, et c'est pour imiter leur exemple, nous dit la Vita d'Antoine, et partager leur couronne qu'Antoine se convertit à la vie franciscaine. Le lien établi par la géographe entre la conversion du premier saint franciscain canonisé après François d'Assise et ces martyrs de Marrakech ne contribua sans doute pas peu à leur réputation. Les mêmes martyrs sont aussi signalés, c'est moins connu, enfin sauf de Jacqueline, sont aussi signalés comme tels, comme martyrs, dans, par deux témoins du procès de canonisation de Claire d'Assise, qui eut lieu à l'automne 1253, afin d'illustrer le désir du martyr de la Sainte et d'expliquer pourquoi Claire voulait aller à Marrakech, une intention, qui n'apparaît pas dans la légende. Car de fait, entre le moment, l'enquête pour la canonisation de Claire, où on a interrogé les témoins, et le moment où on peut lire la vie de Claire, hein, il y a tout un travail hagiographique qui est fait, et une sélection, travail normal d'un géographe, de ce qu'on retient et donc de ce qu'on ne retient pas. Et il se trouve que la géographe s'est bien gardée de retenir ces trois témoignages des sœurs de Claire qui disent qu'elles l'avaient entendu dire qu'elle voulait partir au Maroc à la suite des frères martyrs pour illustrer son désir du martyr. Donc c'est le deuxième plus ancien témoignage. Donc 1232-1239, 1253, le procès de canonisation. La vie de Claire, c'est 1256, mais bon, elle ne nous intéresse que pour dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucune trace de ces martyrs dans la légende. Troisième élément, la chronique de Jourdain de Giano, qui est l'une des chroniques que j'ai traduite pour le nouveau Totum franciscain, qui relate en 1262 les débuts des frères mineurs dans la province de Germanie. Jourdain de Giano est originaire de Giano, donc en Italie, hein, et il a été envoyé en 1217 probablement, hein, par François, qui envoyait alors à divers groupes de frères partout en Europe. Et donc ce frère a été envoyé en Germanie, qu'il redoutait plus que tout, et dit des choses terrifiantes, en disant « Oh là là, je ne veux pas y aller, je vais me faire martyriser, justement », et donc il ne veut pas y aller, et puis finalement il se retrouve pris, mais je vous raconterai l'histoire une autre fois. Et donc c'est le texte du XIIIe siècle, donc on est en 1262, quand Jourdain de Giano raconte, qui est un vieil homme à ce moment-là, raconte ses souvenirs. Et ce souvenir, c'est évidemment, il est tout construit, tout concentré pour démontrer l'installation, les conditions d'arrivée et d'installation des frères mineurs dans la province de Germanie. Et c'est le premier texte, donc 1262, qui nous donne des précisions sur, je cite, « les frères passés en Espagne », dont 5 reçurent la couronne du martyr. Il signale en outre, Jourdain, et c'est extrêmement intéressant, que du vivant de François, il existait une legenda, une légende, un texte qu'on lisait, dont le saint d'Assise avait fermement interdit la lecture, concluant ce passage en commentant, en quelque sorte, Jourdain de Giano conclut ce passage en commentant en quelque sorte l'échec de cette première tentative d'envoi, je préfère ce mot-là au mot mission, on parlera après si vous voulez, d'envoi des frères, il écrit, et ainsi tout ce premier envoi, donc j'ai traduit dans le texte, n'aboutit-il à rien, sans doute parce que le temps d'envoyer les frères n'était pas encore venu, puisqu'il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Et quant à ce qu'il rapporte de François d'Assise, je vais vous le lire, il écrit, « Quand on rapporta le martyr, la vie et la légende des 10 frères au bienheureux François, il entendit qu'on y faisait son éloge et vit que les frères tiraient gloire de la passion des autres, comme il avait le plus grand mépris pour lui-même et qu'il dédaignait les louanges et la gloire. Il repoussa la légende et interdit de la lire en disant que chacun soit glorifié par sa propre passion et non par celle des autres. Et ainsi, le tout premier envoi n'aboutit-il à rien, etc., ce que je viens de vous dire. » C'est la troisième source. Il y en a une quatrième, c'est un sermon de Bonaventure prononcé le 4 octobre 1267, qui évoque, là encore, les tentatives infructueuses, qu'on retrouve dans la géographie, tentatives infructueuses de François pour se rendre outre-mer et pour aller vers le Miramoulin en Espagne, et, dit-il, du côté de Marrakech, où ensuite nos frères furent martyrisés. Enfin, à la fin du XIIIe siècle, les Dicta Aurea, c'est un texte extrêmement intéressant, ce sont des propos, hein, des dictats d'or ou doré, ces propos qui sont attribués à Gilles d'Assise, l'un des tout premiers compagnons de François, et restitués d'ailleurs selon des modalités comparables aux admonitions de François d'Assise, évoquent aussi brièvement ces premiers martyrs tués à Marrakech, et là d'une manière assez différente et je crois très intéressante, parce que Gilles d'Assise explique, se lamente en fait, que les prélats de l'ordre, que les prélats les plus importants de l'ordre, n'aient pas œuvré auprès du pape pour qu'il les canonise. Regrettant ce manque de zèle pour une cause aussi sainte qu'exemplaire, Gilles d'Assise révèle indirectement que dans les années qui suivirent l'exécution des frères de Marrakech, que je ne saurais préciser davantage, à mon avis, la fin des années 1220 et peut-être les années 1230 plus probablement, il y eut discussion, voire peut-être même débat au sein de la communauté, pour savoir jusqu'à quel point il convenait de les ériger en exemple et d'œuvrer à la reconnaissance officielle de leur sainteté. Au demeurant, les deux versions successives de la règle, comme vous le savez peut-être, celle de 1221 et celle de 1223, celle de 1223 étant encore la règle des frères, qui consacrent chacune un chapitre à ceux qui vont chez les Sarrasins et autres infidèles, pourraient bien confirmer cette hypothèse. En effet, le long chapitre 16 de la Regula non bullata, la règle non bullée, celle qui n'a pas été reconnue par le pape, qui date de 1221, détaille les deux types de comportements que les frères peuvent adopter parmi les infideles, sans qu'on précise ce que sont ces infidèles. Et précise surtout que c'est après avoir reçu la permission du ministre qui doit aussi vérifier s'ils sont aptes, je souligne les mots qui sont traduits directement du latin, et donc les deux comportements sont l'une est de faire, enfin les deux attitudes, l'une est de faire ni dispute ni querelle, d'être soumis à toutes les créatures à cause de Dieu et de manifester qu'ils sont chrétiens, l'autre est d'annoncer la parole de Dieu pour que les infidèles soient baptisés et deviennent chrétiens. Ce passage s'achève par une série de citations évangéliques qui invitent notamment à se réjouir de la persécution, mais aussi à la fuir, rappelant qu'il ne faut pas craindre ceux qui tuent le corps et que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Dans la Regula Bullata, c'est-à-dire la règle de 1223, celle qui a été approuvée par le pape, qui est la règle des frères mineurs, il y a un très bref chapitre, qui est le chapitre 12, consacré exactement au même sujet, avec le même titre, et là où la Regula Nun Bullata comportait plusieurs paragraphes et était abondamment développée et nourrie de citations évangéliques nombreuses, dans ce cas, le passage tient en deux phrases. La première indique que si les frères, par inspiration divine, veulent aller chez les Sarrasins et autres infidèles, qu'ils en demandent la permission à leurs ministres provinciaux. La seconde phrase, qui est tournée en forme de ferme interdiction, me semble-t-il, précise que les ministres, je cite, « n'accordent la permission d'y aller à personne, sinon à ceux qu'ils verraient aptes à être envoyés ». Autrement dit, la tournure, le changement de tournure est extrêmement important. On sait que donc cette seconde version est beaucoup moins riche en citations évangéliques, qu'elle est aussi, et à juste raison, je pense, réputée plus fonctionnelle que la première, que la règle de 1221, mais on peut peut-être, prudemment, formuler l'hypothèse que cette évolution d'une version à l'autre de la règle est liée à l'épisode de Marrakech, dont la connaissance et l'analyse put être faite entre 1221 et 1223. Conservant l'idée chère à François d'aller chez les infidèles, ce qui en soi était déjà une absolue nouveauté dans une règle religieuse, on ne le dira jamais assez, la Regula Bullata ne prescrivait plus aucun type de comportement, mais elle affirmait de manière somme toute assez sèche et totalement ferme la nécessité de ne laisser personne aller dans cette voie, sinon les frères jugés aptes par leur supérieur hiérarchique provincial. Telles sont, je dirais, les bases du XIIIe siècle. Les passions du XIVe siècle qui relatent le martyr de Marrakech illustrent de manière explicite que les premiers martyrs furent des martyrs volontaires. Et là, on entre, si vous voulez, dans un processus de rédaction hagiographique beaucoup plus développé, dont je n'ai pas retrouvé de témoins pour le XIIIe siècle, même si j'ai une propension à penser, dès lors que Jourdain de Giano le dit, il n'y a pas de raison de ne pas le croire, qu'il y eut, bien sûr, dès le XIIIe siècle, une légende sur les frères de Marrakech. Mais en l'état actuel des choses, je ne peux pas dire, à travers les textes du XIVe siècle, quel est le noyau initial de la passion du XIIIe, et de la légende plutôt du XIIIe. Alors, ces passions qui les présentent comme des martyrs volontaires et qui racontent une histoire très développée, expliquent, bien sûr, que, enfin, ou plutôt permettent de comprendre que les martyrs volontaires de Marrakech explorèrent une voie ouverte par François qui consistait à aller exposer avec humilité et dans une forme simple le message chrétien aux infidèles, cette attitude expliquant d'ailleurs qu'il soit revenu vivant de son entrevue avec le sultan Adamiet, ce qui ne manqua pas de susciter d'ailleurs l'étonnement de plusieurs de ses contemporains. Mais ces passions détournent finalement, d'une certaine manière, au XIVe siècle, l'attitude jusqu'à la provocation, c'est-à-dire qu'on met en scène des frères qui insultent la religion musulmane, qui blasphèment contre son prophète, ce qui évidemment dans le droit musulman conduisait inévitablement à une sentence de mort, à laquelle d'ailleurs seule une conversion à l'islam permettait d'échapper. Si l'enthousiasme évangélique, l'absence d'un système de contrôle permettant d'évaluer fermement l'aptitude des frères qui se rendaient en terre d'islam, et si la méconnaissance des réalités de l'islam avait pu pousser vers 1217-1219 les frères tués à Marrakech vers des excès dont la règle définitive tentait d'empêcher la réitération, durant un demi-siècle, l'organisation et les processus de contrôle d'activité des frères, les objectifs de l'ordre liés à ceux de la papauté et les évolutions du contexte firent que des événements semblables à ceux de Marrakech ne se reproduisirent pas, ou peu, durant le XIIIe siècle. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'aucune source ne rapporte semblable histoire, sinon une affaire à Valence en 1231, mais l'attestation est tardive et la tradition très mince. Et si vous voulez, on parlera des martyrs de Ceuta une autre fois, ou dans la discussion, je vous expliquerai qu'en fait, les martyrs de Ceuta, c'est un dédoublement des martyrs de Marrakech. Ça, c'est une autre histoire. Alors, cela ne signifiait pas pour autant que l'idée selon laquelle les frères qui mouraient en terre infidèle étaient des martyrs, que cette idée avait disparu. Dans son Libère, donc, en gros, ce que je veux vous dire, c'est qu'après l'épisode de Marrakech, on n'a plus d'attestation d'épisodes semblables dans les sources. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on parle des martyrs, on parle de ces martyrs-là, très peu, de manière lapidaire, et ensuite, on n'a plus rien jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Deuxième étape, c'est la fin du XIIIe siècle. Dans son livre de récupération de la Terre Sainte, traité rédigé peu après la chute de Saint Jean d'Acre en 1291, Fidence de Padoue, qui avait été vicaire de la province de Terre Sainte, et très proche du pape Grégoire IX, qui lui avait passé commande de ce traité en 1274, Fidence de Padoue, franciscain, provincial de Terre Sainte, fait mention des frères de Marrakech en se gardant bien, lui, de les qualifier de martyrs. Il dit, il y a des frères qui ont été tués à Marrakech, mais il ne les appelle pas martyrs. Il réserve en revanche cette qualification à ceux parmi les religieux qui, dans un contexte de guerre et de disparition des places fortes chrétiennes de Terre Sainte à partir des années 1260, auraient été sommés par les Sarrasins de se convertir à l'islam et auraient refusé d'apostasier, faisant ainsi le choix de mourir chrétien plutôt que de vivre musulman. Dans ce contexte, le martyr laissait totalement insensibles les musulmans, ce que Fidence de Padoue et d'autres auteurs ne manquent pas de souligner abondamment, mais l'acceptation de la mort par les frères relevait d'un acte de foi et d'un acte de résistance héroïque, destiné, dans l'esprit de Fidencio da Padova, de Fidence de Padoue, de l'auteur de ce traité, destiné à affermir les communautés chrétiennes victimes des conquêtes de Baïbar, entre 1260 et 1277. Baïbar, c'est le fondateur de l'État mamelouk, et cette conquête fut effectivement extrêmement violente, ce que nous disent les sources chrétiennes, mais aussi les sources arabes. Face à la persécution, donc, les franciscains adoptaient, en tout cas certains d'entre eux, une attitude véritablement évangélique, conforme à celle des premiers apôtres qui acceptaient la persécution sans l'avoir recherchée, et en ce sens, conforme aussi, me semble-t-il, à l'intuition du fondateur. En mentionnant l'Inde comme point d'aboutissement provisoire de la liste des lieux où les franciscains avaient versé leur sang, Jérôme de Caffa s'appuyait sur l'actualité la plus récente. Autrement dit, Marrakech, c'était un passé qui était en train d'être construit d'une certaine manière par les textes hagiographiques. Les martyrs de Tanas, c'était l'actualité, c'était le jour d'avant, ou presque. L'épisode auquel il fait allusion est celui concernant des frères tués à Tana, donc, en 1321, dont le retentissement fut grand au sein de la communauté franciscaine, mais aussi bien au-delà de cette communauté. Des lettres racontant le martyr de Tana, et ensuite d'autres martyrs survenus ultérieurement, furent envoyées par des dominicains, par exemple, et par des franciscains aussi, œuvrant à l'évangélisation dans ces contrées lointaines. Elles sont bien attestées. Ces lettres furent ensuite assez largement diffusées par leur transcription, soit dans des petits dossiers manuscrits, pour l'heure essentiellement conservés en Angleterre, ce que j'ai pu retrouver en tout cas, dans plusieurs chroniques franciscaines italiennes ou allemandes du XIVe siècle, par la relation de voyage d'Ordéric de Pordenone, qui est un auteur franciscain assez connu, qui se prévaut, pour sa part, d'avoir rassemblé les reliques des frères de Tana pour les transporter, dit-il, au locus, c'est-à-dire, couvent c'est un peu excessif, hein, le lieu des frères de Zaïton, c'est-à-dire en face de l'île de Taïwan, au sud-est de la Chine actuelle. C'est un évêché qui a été créé au début du XIVe siècle par le pape Clément V, et c'est un évêché suffragant de Cambalique. Et d'ailleurs, il a raconté cela dans son récit de voyage, hein, d'avoir rassemblé les reliques, de les avoir... transporté, et une scène de cet acte, de ce geste, avait été peinte dans le couvent franciscain de Houdiné, dans le Frioul, avant qu'un tremblement de terre ne fasse tomber les fraises dont on n'a plus que des fragments. Donc, autrement dit, que le thème a eu beaucoup de succès. Parmi les chroniques italiennes qui signalent ce martyr, qui sont d'ailleurs contemporaines l'une de l'autre, la nouvelle du martyr de Tana est arrivée à Avignon en 1322, c'est-à-dire au moment où Jean XXII commence à songer sérieusement à trancher la question de la pauvreté. Et ces mêmes chroniques nous assurent que des lettres donnant le récit de ce martyr de Tana, de 1321, était lu, je cite, « avec une grande ferveur, au prélat du consistoire, par Jean XXII lui-même ». Et l'une des chroniques signale même que le pape versa, je cite, « des larmes de dévotion en entendant leur histoire ». L'émotion et les larmes pontificales sont aussi mentionnées dans d'autres sources, dans les fameuses lettres que j'évoquais précédemment, qui ont circulé dans des manuscrits indépendants, et à propos d'autres martyrs, alors celui de Tana et puis celui d'Erzincan, en 1314, je ne vais pas m'étendre sur celui-là. Mais bon, c'est la même impression. Si la circulation de ces lettres relève bien d'une forme de volonté de diffuser l'information, et eu égard au contexte dans lequel les choses se font, de propagande, il convient cependant de souligner d'une part que de telles lettres relatant des martyrs parvinrent effectivement en curie. Et j'ai retrouvé deux exemplaires de ce type de documentation concernant les martyrs de Jérusalem en 1391 qui sont aujourd'hui conservés dans les registres du pape Clément VII. Donc il n'y a pas de doute, ça a circulé et c'est arrivé en haut lieu. Et d'autre part, il faut souligner aussi que l'attitude relativement positive à l'endroit des martyrs prêtée par certains chroniqueurs à Jean XXII n'a absolument rien d'invraisemblable et tendrait à conforter l'idée que certains franciscains avaient le souci de démontrer que le pape n'était pas indistinctement hostile à l'ensemble des frères et qu'il était même en mesure d'apprécier leur mérite, surtout quand il s'agissait des conditions de leur mort. Ces consistoires, lors desquels étaient évoquées les questions diplomatiques et lors desquels étaient transmises des informations concernant l'œuvre des frères mendiants, franciscains ou dominicains, à l'extérieur des frontières chrétiennes, ne devaient effectivement pas manquer d'animation parfois. L'une des deux chroniques franciscaines que j'évoquais précédemment accrédite l'idée que, dans la formulation de son avis sur la pauvreté du Christ, Jérôme de Caffa tenta d'argumenter en déplaçant le débat sur un autre terrain, celui de l'évangélisation et du lourd tribut payé par les frères dans ce domaine. Le respect de la pauvreté évangélique allait de pair avec l'annonce de l'évangile à tous et en tout lieu. Cette chronique rapporte ainsi qu'après avoir pris connaissance du martyr des frères de Tana et laissé s'exprimer son émotion, le pape fut prié par les franciscains qui siégeaient au consistoire de canoniser ces nouveaux martyrs. Aussitôt, nous dit le texte, des frères d'autres ordres, non précisés, offrirent les noms de leurs propres coreligionnaires afin qu'eux aussi soient canonisés, de sorte que le pape, face à cet assaut, qui tourna rapidement à la confusion, aurait suspendu toute décision. Donc on imagine un peu les circonstances. Dans l'interpolation figurant dans la traduction italienne de la chronique dite de Nicolas de Freising, celle qu'a utilisée Umberto Eco, les propos de Jérôme de Caffa suscitent une vive réaction de la part de Jean XXII, qui, manifestement très agacé par la supériorité autoproclamée des franciscains dans l'œuvre d'évangélisation, rappelle que les prêcheurs et les autres religieux, eux aussi, ont répandu leur sang en ces lieux. Ce à quoi Jérôme de Caffa rétorque que seuls les frères mineurs se rendent parmi les infidèles, qu'en son temps, 9 ont été martyrisés, je traduis, hein, et que seuls les frères mineurs obtiennent des fruits et des conversions d'âme dans ces contrées. Cette déclaration suscite à son tour une vive réaction d'un évêque dominicain. S'ensuit une passe d'armes entre Jérôme, ce prélat dominicain, et le pape sur les mérites respectifs des prêcheurs et des mineurs dans l'œuvre d'évangélisation. Les derniers propos de Jérôme affirment avec force la loyauté, mise en doute par beaucoup à ce moment-là, des frères mineurs envers l'Église. Personne au monde, dit-il, n'est plus obéissant envers l'Église, ni mieux préparé à mourir pour elle, sinon les frères mineurs. Authentiques nouveaux apôtres, les frères mineurs l'étaient par leur mode de vie pauvre, véritablement évangélique, lequel impliquait aussi de verser son sang, ce qu'il n'avait pas manqué de faire depuis un siècle. Comme les apôtres avaient fondé des églises, fertilisé et enraciné par leur propre martyr et par celui des premiers chrétiens, les frères mineurs plantaient, et d'ailleurs dans les textes latins, on emploie ce verbe-là, plantaient des églises inter infideles parmi les infidèles et payaient de leur vie, le cas échéant, ce labeur dont ils estimaient être les champions. De sorte que, dans l'élaboration d'un discours sur leur propre œuvre et sur leur mérite, les frères mineurs étaient, en quelque sorte, les frères martyrs mineurs, étaient en quelque sorte des pierres miliaires sur lesquelles s'articulait la construction de l'ordre en dehors des frontières de la chrétienté. Du reste, les récits de martyrs du XIVe siècle veulent démontrer tous que les persécuteurs identifiaient particulièrement bien et bien mieux que n'importe qui d'autre les frères mineurs, bien mieux que bien sûr les dominicains, que les chrétiens religieux, que tous les autres chrétiens, religieux ou pas. De la même manière, d'ailleurs, qu'au siècle précédent, les récits des missions diplomatiques, cette fois accomplies par les mineurs, pour le compte de la papauté ou pour le compte du roi de France, Saint-Louis, ou encore les tout premiers traités de récupération de la Terre Sainte, avaient eu tendance à souligner que les frères mineurs étaient les interlocuteurs privilégiés des souverains infidèles. Le fait que les mineurs œuvrant à l'évangélisation aient été prêts à mourir et soient parfois effectivement morts démontrait leur engagement dans la voie apostolique, ce qui est une preuve de leur soumission à l'Église. L'impossibilité pour le chef de cette Église de remettre en cause leur conception de la pauvreté, fondement d'une identité pensée et vécue comme particulière, pouvait en découler par une sorte de raisonnement tautologique. Ce n'est sans doute pas un hasard si des listes mêlant les noms des locats de ces lieux franciscains qui ne sont pas forcément des couvents, les noms des custodies, les noms des provinces, mais mentionnant aussi, sous la forme d'une liste, les conversions obtenues dans des contrées lointaines, notamment auprès des souverains mongols, et mentionnant enfin les noms des saints martyrs, virent le jour au sein de l'ordre dans les années 1315-1325, précisément au moment où la papauté entreprit de s'attaquer à la question de la pauvreté. Ces initiatives témoignent probablement d'un souci de bonne gestion administrative et spirituelle de l'ordre. Mais établir un lien entre le sang versé par les frères, leur fondation, leur organisation territoriale à l'intérieur comme à l'extérieur de l'espace chrétien, relevait aussi d'une stratégie de justification et de promotion de leur état dans un contexte difficile, revenant encore et toujours sur le terrain de la vocation évangélique de l'ordre. Dans cette opération, les frères obtinrent parfois, d'ailleurs, le soutien de grands laïcs très liés à leur ordre. Ainsi, par exemple, en juillet 1321, le roi Jacques II d'Aragon écrivait à Jean XXII pour plaider en faveur de la canonisation des franciscains de Marrakech. Et la date de cette demande, 1321, n'est sûrement pas fortuite. Enfin, en affirmant que les franciscains étaient plus nombreux et installés depuis plus longtemps en Tartarie, par exemple, Jérôme de Caffa suggérait que la supériorité théorique de son ordre, fondée sur l'exceptionnelle sainteté de François d'Assise et sur le caractère parfaitement unique de la règle, se manifestait aussi en pratique, sinon quotidiennement, du moins régulièrement, à travers ces exemples. Quant aux contradicteurs dominicains, en alléguant l'antériorité de la présence des prêcheurs dans la région, ils tentaient de combattre avec les mêmes armes, avec beaucoup de mauvaise foi, en se gardant toutefois d'investir le terrain du martyr. Alors, il resterait à explorer jusqu'à quel point la question des martyrs, telle qu'elle fut posée à partir des années 1315-1316, révèle les liens complexes tissés entre les spirituels, ceux de leurs confrères, qui sont la majorité, qui les avaient combattus, et la papauté, dans un contexte de crise. Pour reprendre l'exemple de Tana, on sait que l'un des quatre martyrs était un dénommé Thomas de Tolenti, non ? Originaire de la Marche d'Ancône, ancien compagnon d'Angelo Clareno. Si l'on se fie au témoignage d'Angelo Clareno, dans son Epistola Excusatoria, adressée à Jean XXII en 1317, qui est une sorte d'auto-justification, de défense et illustration de son parcours religieux. Si l'on suit donc le témoignage d'Angelo Clareno, Thomas de Tolentino, martyr de Tana, aurait été d'abord emprisonné quelque temps avec lui, à la fin des années 1280, avant d'être envoyé en Arménie. On ignore par quel chemin il se retrouva dans le groupe de Tana. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas retrouvé. On soupçonne aussi fortement qu'il y eut des spirituels parmi d'autres martyrs, notamment le groupe des martyrs d'Erzincan que j'évoquais tout à l'heure en 1314. Deux d'entre eux étaient eux aussi originaires de la Marche d'Ancône, dont vous savez peut-être qu'elle était une terre de prédilection du mouvement dissident. Et surtout, la relation martyrie de ce frère, qui qui les fit connaître, et le gardien du couvent de Trébizonde, qui est connu pour avoir été un zélateur de la plus stricte pauvreté, même si lui ne fut jamais condamné. En fait, ce qu'il semble, c'est qu'à partir de 1290, l'envoi de dissidents franciscains vers la Grèce et la Petite Arménie put sembler un moyen de résoudre le problème qu'il posait. L'évangélisation auprès des chrétiens de ces contrées pouvait leur sembler comme compatible avec leurs exigences, ces lieux éloignés faisant office en quelque sorte de refuge. Et, aux yeux de leur hiérarchie, cette forme d'exil pouvait sembler résoudre la crise. D'ailleurs, cette pratique d'envoyer les frères soupçonnés d'appartenir à ces tendances se perpétua. Quelques enquêtes pour hérésie conduites en Arménie majeure dans les années 1330 tendant à démontrer que le problème, en quelque sorte, avait été déplacé d'Occident vers l'Orient, plus ou moins lointain, l'Orient, sans pour autant être résolu sur le fond. En dépit des soupçons qui pouvaient peser sur certains d'entre eux, les frères martyrs des deux premières décennies du XIVe siècle furent progressivement reconnus et intégrés par l'ensemble de la communauté qui considéra leur démarche comme conforme à la vocation évangélisatrice de l'ordre dans son ensemble. Cette position vit le jour dans le contexte de crise ouverte des années que j'évoquais tout à l'heure, au moment où ces Bédéguins du Languedoc, par exemple, commençaient à considérer que ce qu'on brûlait étaient eux aussi des martyrs. Elle conduisit donc à diffuser les noms et l'histoire des martyrs franciscains dans l'ordre pour exalter, pour faire connaître et exalter la valeur du témoignage, mais elle consista aussi à tenter de promouvoir leur sainteté auprès de la papauté, en vain, pour autant que l'on sache. Par ce témoignage qui, de supplice en supplice, ressourçait le lien avec les premiers martyrs chrétiens, les franciscains prétendirent fonder des églises in partibus infidelium et obtenir des conversions, comme le soulignent très bien les propos de Jérôme de Caffa, et les listes hagiographico-topographiques que j'évoquais tout à l'heure, ou encore les quelques dossiers que j'ai retrouvés dans les archives consacrées aux martyrs, en témoignent. L'attention portée aux martyrs, à partir des années donc 1315, 1320, 1325, ne fut, me semble-t-il, probablement pas le fait d'une minorité radicale, contrairement à ce que d'aucuns ont pu penser. Jérôme de Caffa, pour lequel le sang des franciscains répandu du Maroc jusqu'à l'Inde était le signe tangible de la remarquable expansion de son ordre et surtout du dévouement de celui-ci à la cause de l'Église, avait été, le pauvre, calomnié vertement par Ange Clareno, qui l'avait stigmatisé et l'avait attaqué, de sorte qu'on ne peut lui non plus absolument pas le soupçonner de sympathie spirituelle. Donc le fait qu'il défende, si vous voulez, cet idéal n'a pas à voir avec la volonté de défendre aussi ces spirituels qui posaient problème à l'intérieur de la communauté. La possibilité du martyr, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, fut présente dans la première règle comme dans la géographie de François d'Assise. De ce fait, la promotion des martyrs à l'intérieur de l'ordre pouvait se fonder, me semble-t-il, sur quelques bases solides. Si la question du martyr suscita bien quelques réflexions au cours du XIIIe siècle, il semble bien que ce soit dans les trois premières décennies du XIVe, in fine, dans le contexte des débats sur la pauvreté, que les martyrs de l'ordre anciens, ceux du Maroc, et plus récents, Tana, surgirent. Il n'est pas invraisemblable, me semble-t-il, de penser que l'évêque de Caffa a affirmé publiquement sa conviction. Son ordre était supérieur à tous les autres par sa règle, qui était l'Évangile, et par sa capacité unique à essaimer dans le monde entier, à fonder de nouvelles églises, au risque de la vie des frères eux-mêmes, ceci expliquant cela. Il exprimait ainsi la conviction que son ordre avait vocation à ressourcer le christianisme et à régénérer l'Église en lui ouvrant de nouveaux horizons. Son témoignage et quelques autres que je ne vais pas évoquer ici démontrent que les martyrs furent aussi une forme de preuve versée au débat et peu importait qu'il y ait eu d'anciens spirituels parmi les plus récents d'entre eux. Plus que ces derniers qui vivaient, ces spirituels qui vivaient leur quotidien justement comme une persécution continuelle et un martyr incessant, ils l'écrivent comme ça, hein, la communauté prit peut-être conscience de la puissance d'argumentation qu'elle pouvait aussi tirer de ces martyrs. Le sang versé proclamait sa différence, la justifiait et prouvait sa vocation véritablement apostolique au moment où elle était attaquée de toutes parts et par ailleurs au moment où la communauté était divisée. Cette orientation possible de la sainteté franciscaine pouvait en outre susciter une forme d'unanimité alors que la pratique de la pauvreté et le respect de la règle étaient en cause. Les franciscains qui travaillèrent à la construction d'une mémoire propre aux martyrs de leur ordre contribuèrent, me semble-t-il, à orienter le débat sur un terrain très essentiel à leurs yeux, celui de l'évangélisation et du prix à payer pour tenter d'obtenir quelques succès, ou peut-être, car ils n'étaient pas naïfs au XIVe siècle, ou peut-être pour simplement vivre au milieu des populations infidèles, sans autre but finalement. Le processus d'exaltation de la mémoire des martyrs fut peut-être alors aussi l'expression d'une quête, celle consistant à rechercher un lieu possible de réconciliation entre les différentes tendances de l'ordre, où la communauté divisée pouvait chercher à se ressouder dans la mémoire et dans la commémoration des frères martyrs. D'ailleurs, dès la fin des années 1330, plusieurs couvents franciscains, italiens, ornèrent à grands frais, je l'évoquais tout à l'heure, leurs murs, ou décorèrent le mobilier de leur couvent de représentations dont le sujet était le martyr des leurs, ce qu'on trouve absolument pas auparavant. Usage spéculaire, me direz-vous, et d'une manière en circuit clos. Mais n'oublions pas que les frères avaient aussi de nombreuses relations avec les communautés parmi lesquelles ils étaient implantés. À la fin du XIVe siècle, les martyrs évoqués par Jérôme de Caffa et plusieurs autres qui furent dûment recensés jusqu'à la fin du XIVe siècle, tous volontaires, furent intégrés dans l'historiographie de l'ordre. Et la chronique des 24 généraux comme le De Conformitate de Bartholomé de Pise le démontre, sans qu'il y ait de problème au moment de la réalisation de ces compilations. Ils incarnèrent donc cette autre facette du message franciscain, le martyr pour la foi constituant un risque assumé, lié à la vocation de l'ordre et un trait d'identité présenté et vécu comme propre aux franciscains. Comme l'avait noté jadis André Vaucher, mon bon maître, l'Église ne canonisa aucun martyr entre 1253, date de la canonisation de Pierre de Vérone, un dominicain, inquisiteur, martyr, tué par les hérétiques sur la route de Côme à Milan, et 1481, donc aucune canonisation avec le titre de martyr entre 1253 et 1481. Et les arguments déployés par les franciscains au cours du XIVe siècle ne portèrent aucun fruit de ce point de vue. En 1481, au lendemain du siège d'Otrante par les Ottomans, qui massacrèrent l'essentiel de la population de la cité, c'était en 1480, le pape franciscain Sixte IV reconnut officiellement le culte des premiers martyrs franciscains de Marrakech, pas exactement une canonisation, enfin une reconnaissance de culte vaut canonisation. Preuve que dans le contexte de la fin du XVe siècle, l'autorité pontificale portait un regard différent sur la question de la sainteté martyre. Par une sorte de renversement de perspective, le sang versé par les premiers franciscains n'était alors plus tant le signe de leur contribution à l'expansion chrétienne que le symbole possible d'une attitude de résistance face au péril qui menaçait la chrétienté. D'une certaine manière, et avec un siècle et demi de retard, l'argumentation de Jérôme de Caffa avait finalement convaincu pour des raisons exactement inverses de celles qu'il avait tenté d'annoncer. Je vous remercie. Je m'en plains moi-même que vous ne me voyez plus.
Alors, des questions.
Je vais demander l'asile politique ici.
Ah bah. Jacqueline.
Deux petites questions.
Vos questions ne peuvent pas être
Jacqueline. Donc, ça
Bah oui.
Elle veut partir. Elle aussi.
Voilà.
Et François, non, il ne peut pas la juger. Vous voyez ce que je veux dire.
Vous imaginez Sainte-Claire à Marrakech?
Non. Bon, vous avez des femmes qui veulent quelque chose. Non, maintenant, la deuxième question est plus sérieuse. Enfin, non, elle n'est pas plus sérieuse. Je croyais me souvenir que Saint-François avait dit « J'ai enfin cinq vrais frères mineurs ».
Absolument. Alors, dans la chronique des 24 généraux, c'est-à-dire que, c'est très bien que vous me posiez la question, parce que ça dit bien que l'approche historique de ces questions impose d'avoir une très très grande attention au texte. Il se trouve que à un siècle et demi de distance, c'est-à-dire entre Jourdain de Giano, 1262, et la chronique des 24 généraux que j'évoquais en conclusion, qui a été rédigé dans les années, alors c'est compliqué la chronique des 24 généraux, mais enfin en gros c'est les années 1360, fin 1360, début 1370, donc même pas un siècle et demi, un siècle de distance, les deux sources disent exactement le contraire, c'est-à-dire que dans l'esprit de Jourdain, qui avait connu François, qui a fait partie, donc il n'en était pas proche, hein, qui n'était pas un compagnon, etc., mais qui était assise en 1217, enfin bref, qui a connu la première génération du frère mineur, et qui lui appartient aussi, dit très clairement, et franchement, c'est un conteur extrêmement scrupuleux, Jourdain de Giano, enfin, sa chronique est magnifique, c'est un texte extraordinaire, mais extraordinaire, vraiment. Alors, je suis séduite, vous l'aurez compris, donc ça n'altère pas mon esprit critique, mais il n'y a pas de raison, si vous voulez, de ne pas croire ce qu'il nous dit quand il raconte ce truc-là, quoi. Quand il dit, François a dit, j'interdis de lire la légende, ça ne va pas du tout, etc. On voit, ça colle assez bien. En revanche, quand, un siècle plus tard, Arnaud de Saran, pour autant qu'on sache, entreprend de rédiger cette vaste histoire des 24 généraux, hein, donc qui est une sorte de compilation qui recolle les morceaux, quoi, après un siècle et demi un peu compliqué, il faut bien dire. Alors là, quand il évoque les martyrs de Marrakech, il raconte la passion, donc là on a un texte fleuve, on en a deux versions, enfin, ça devient, on est dans le plein épanouissement de la littérature hagiographique, et donc dans le texte consacré aux martyrs de Marrakech, il dit à François, il fait dire à François, je peux dire maintenant que j'ai vraiment cinq frères. C'est-à-dire, on lui rapporte le martyr, et sous le calame, la plume, je parle plutôt le calame, de Arnaud de Saran, l'idéal franciscain de François, si je puis dire, est d'abord et avant tout cela, ce qui n'est pas peu. Maintenant, je peux dire que j'ai vraiment cinq frères. Donc, vous voyez, il y a un changement d'attitude radicale de deux personnages qui évidemment n'ont rien à voir entre eux. Enfin, entre Jourdain de Giano, l'évangélisateur de la Germanie, celui qui a mené le tambour battant les frères à travers des contrées hostiles et qui craignait d'ailleurs le martyr comme la peste, il le dit, il l'écrit. Et Arnaud de Saran, il y a un retournement de situation, clairement. Ça ne veut pas dire pour autant. Qu'on est, parce qu'il se trouve que justement à la fin du XIVe siècle, enfin quand Arnaud de Saran rédige la chronique 24 généraux, on n'est pas encore tout à fait dans un moment où il n'y a plus de martyrs, si je puis dire, mais il faut attendre l'extrême fin du XIVe. Après passer le XVe siècle, il y en a beaucoup moins, et puis il y en a de nouveau ensuite, mais vous voyez, il y a une chronologie. Enfin, ce que je me suis efforcée de faire, en tout cas dans un premier temps dans mon travail sur cette question, c'est de mettre du temps dans ces textes, d'essayer de les repérer, de mettre bout à bout pour essayer de dégager une scansion. Et en fait, la conclusion de tout ça, c'est que il me semble que sur une base originelle, indiscutable, me semble-t-il, cette question du martyr prend du relief à partir du XIVe siècle et pas avant, et pour les raisons que je vous ai dites. C'est-à-dire que il me semble, en tout cas c'est mon hypothèse, que même s'il y avait sûrement des petites choses qui circulaient, etc., c'est à partir de ce moment-là que les frères, en tout cas certains d'entre eux, ont pris conscience de l'importance pour eux d'essayer de faire valoir cet autre aspect de leur mission au sens général du terme.
Petite
remarques à propos des martyrs de Thanas. La première chronique qui parle des martyrs de Thanas, c'est le compagnon de Thomas Tolentino. C'est-à-dire le dominicain qui l'a accompagné.
C'est Jourdain de Catalas, c'est pas une chronique.
C'est une lettre.
C'est une lettre, oui.
Et on le soupçonne d'avoir écrit la lettre pour s'excuser de ne pas être martyr lui-même.
Oui, d'ailleurs, il le dit.
Parce que d'après Roderick de Pordenone, en fait, il se serait enfui.
Alors ça, c'est la propagande franciscaine. Vous n'allez pas céder à ça. C'est pas bien.
Il aurait été martyr parce qu'il aurait laissé les franciscains se dépatouiller.
Jourdain de... Enfin, je ne me souviens plus le détail, je vais regarder le texte. Ce qu'il dit, Jourdain de Catala, il ne les a pas accompagnés jusqu'à Tana.
Jusqu'à l'île, c'est ça. Voilà. Il est resté sur le continent.
Il est resté sur le continent. Et il explique, l'île de Dieu. Et il explique, dans sa lettre, il explique ce qu'il est en train de faire. Alors, il dit, c'est compliqué, tout ça, j'ai pas beaucoup de livres. C'est une lettre extrêmement intéressante. Son objectif, c'était pas d'aller là-bas. Mais du reste, on se demande un peu que diable allait-il donc faire dans cette galère de Tana. Parce que l'Inde. C'est un problème que j'ai pas bien élucidé pour le moment. C'est-à-dire les choix. Vous voyez, les choix des frères. Mais bon, les dominicains, les Indes, ça les intéresse pas.
Me semble-t-il, moi je ne connais pas ça de première main. Mais me semble-t-il, Thomas Tolentino, d'abord, s'il est parti là-bas, c'est parce qu'il était chargé par le chapitre général d'aller porter au pape, qui était donc Bertrand Hugo, Clément V, était lui porter la lettre de Jean de Montcorvin. Alors, le pape reçoit Thomas Tolentino, et puis quelques semaines après, décide d'envoyer des frères pour ordonner Jean de Montcorvin. Et ce premier envoi ne va pas aboutir. Et donc, Thomas Tolentino fait partie de l'envoi de frères franciscains et dominicains donc, pour aller continuer la mission ou aider la mission de Jean de Montcorvin.
Alors, je pense que... Enfin, je ne sais pas qui explique ça.
Je crois que c'est Odoric.
Odoric, il dit pas exactement ça. C'est peut-être une version un peu interpellée d'Odoric, parce que le problème, c'est le lien qu'on établit souvent, et parfois à juste raison, enfin même toujours à juste raison, entre, l'action pontificale et l'action des frères. Autrement dit, la position habituelle, c'est celle qu'a développée Jean Richard dans ses merveilleux travaux sur les missions au Moyen-Âge, enfin à la fin du Moyen-Âge, et en gros, elle consiste à dire, la papauté avait des idées sur le sujet, d'ailleurs Louis IX aussi, enfin Saint-Louis aussi, dès le milieu du XIIIe siècle. Les Mongols, c'est d'abord un formidable espoir, après avoir été une totale terreur, on découvre qu'ils ne sont pas musulmans et qu'on peut peut-être les convertir. Donc ça suscite beaucoup d'espoir, l'idée étant de bâtir une alliance pour prendre à revers les États musulmans. Alors, l'idée habituelle, c'est de dire, la papauté aurait conçu un plan, et l'instrument de ce plan, c'est les frères mendiants, les dominicains et les franciscains. Je ne suis pas sûre que ce soit passé comme ça. Je pense même que ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que on fait des frères mineurs, et des dominicains aussi, mais surtout les frères mineurs, sorte d'instrument, de la politique pontificale. Or, moi, je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce sont les frères, franciscains d'abord, dominicains aussi un peu, mais beaucoup moins, qui, à cause même de la conception qu'ils avaient de leur mission, au sens de leur objectif, ont conçu et ont trouvé les arguments pour, non pas convaincre, parce que je ne suis pas sûre que ce soit dans ces termes-là que la question se soit posée, mais disons, pour bâtir une politique de dilatatio christianitatis, de dilatation du monde chrétien, et pas l'inverse. Alors, je suis toujours un peu suspicieuse, vous me pardonnerez, quand on trouve des connexions dans cet ordre-là. Hein, le pape qui dit à un tel d'aller voir, etc. Ça a marché dans certains moments, mais sûrement pas au début. Et au XIVe siècle, même si la papauté multiplie les interventions, surtout la papauté essaye d'organiser les choses, mais n'a pas les moyens de le faire. Ça, c'est ce que dit Jean-Richard, je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'elle essaie, par exemple, de créer des évêchés et des archevêchés in partibus in fidelium. C'est important parce qu'il faut se répartir l'espace, mais c'est aussi pour régler le problème entre les franciscains et les dominicains. Et du coup, les dominicains vont jusque voilà, la mer Noire, un peu au-delà, ils vont pas très loin, dans un premier temps. Voilà. Jusqu'à entre mer Noire et Caspienne. Mais à part l'écoumant, il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Ceux qui vont vraiment loin, qui sont vraiment des aventuriers, c'est les franciscains. Mais parce qu'ils sont beaucoup plus liés aussi aux marchands. Beaucoup plus que ne le sont les dominicains au départ. Je veux dire, il y a un lien ontologique, bon, le fondateur, mais pas seulement, quoi. Il y a vraiment une articulation dès le départ entre la manière dont le franciscanisme se construit après François et les marchands, enfin, en tout cas, certains marchands italiens. Et donc, c'est vraiment... Le couple marchand-franciscain qui part sur les routes, et on le voit bien, et les dominicains ne s'aventurent jamais, ou très rarement, là où il n'y a pas des communautés. D'ailleurs, Jérôme de Caffa le dit, mais ce n'est pas seulement de la polémique, quoi, c'est vrai, enfin, je veux dire, c'est vrai pour autant qu'on le sache, disons, ce que les sources nous rapportent.
Juste une petite remarque. Je me souviens de l'église Saint-François de Porto, qui est une église complètement baroque à l'intérieur.
Où il y a un reliquaire.
À Porto, où il y a un hôtel.
Délirant, baroque.
En bas, ce sont les martyrs du Maroc, et juste au-dessus, ce sont les martyrs du Japon.
Oui.
Et on fait un lien très fort entre ces deux groupes de martyrs. Et j'ai l'impression que les martyrs du Maroc ont joué pendant toute l'histoire de l'ordre. De référent du martyr. Si on était martyr, c'était par rapport à eux.
Absolument, ils sont devenus fondateurs.
Alors, les martyrs de Ceuta, juste un tout petit mot, parce que vous nous avez dit tout à l'heure que...
C'est compliqué.
Dans la petite invitation que vous avez eue, il y a les deux groupes de martyrs, les 5 et les 7.
C'est un dédoublement, je pense.
Bon, alors, c'est-à-dire, en deux mots, la démonstration...
La démonstration, elle est fondée sur une étude extrêmement minutieuse de la mention du nombre des frères martyrs attachés... au Maroc et à Marrakech pendant un certain temps, et puis tout à coup on voit surgir, en fait il y a 5 et 7, la démonstration elle est fondée là-dessus, c'est-à-dire que pendant des mentions du XIIIe siècle, je vous les ai données, en fait sur les martyrs de Ceuta, les textes les plus anciens qui les évoquent, c'est deux choses, c'est d'une part un légendier qui est inédit, qui est conservé à la bibliothèque Laurentiana de Florence, et la chronique des 24 généraux. Et en fait, l'un des chroniqueurs que j'ai étudié quand je faisais ma thèse, et qui est aussi l'auteur du premier catalogue de saints franciscains connus, donc une liste de saints franciscains, ça commence avec François, mais après c'est le premier à mettre en ordre simplement les noms attachés à des lieux, et c'est là-dedans que surgissent les martyrs. On est déjà au XIVe siècle. En fait, lui commence à donner des noms, et ensuite on voit une forme de dédoublement des noms dans la chronique des 24 généraux. Et donc en fait, je vous enverrai les pages que j'ai écrites sur le sujet, c'est une histoire un peu compliquée qui consiste à mettre en parallèle divers textes et divers manuscrits, parce que c'est très important de pouvoir dater les choses. Et je pense que c'est un dédoublement. C'est-à-dire.
Quand est-ce qu'apparaissent leurs noms, par exemple, à ces martyrs?
Tard. Les martyrs de. Alors, les martyrs.
De Marrakech, leurs noms.
Pas avant le XIVe siècle. Voilà, c'est pas avant le XIVe siècle. Mais la fin du XIVe siècle. Avant, on les nomme pas. Le premier à dire qu'ils sont 5, c'est Jourdain de Giano. C'est très. Voilà, ils ne donnent pas les noms aux Jourdains. Bon, Gilles d'Assise non plus. Donc, jusqu'à la fin du XIIIe siècle, on n'a pas de nom. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'en avait pas. Disons que, moi, ma conviction, c'est que, à partir du moment où on voit ce qui est écrit dans la vie d'Antoine, de Padoue, et par rapport à ce que dit Jourdain de Giano, il n'y a pas de raison de douter, là encore, qu'il y ait eu un texte rédigé à Coimbre, là où il y avait les reliques, assez rapidement. Maintenant, qu'est-ce que c'était que ce texte? Je ne le sais pas, parce que je n'ai pas de témoignages manuscrits qui datent de cette époque. Je n'ai que des choses du XIVe siècle. Or, les choses du XIVe siècle, elles sont déjà tellement, tellement structurées, tellement intriquées, quoi, que... Enfin, j'en ai parlé avec François Dolbeau, qui est le plus grand philologue, hagiographe que je connaisse. On a regardé un peu ça ensemble et tout ça, et bon, lui il est convaincu, enfin la démonstration que j'ai faite de cette histoire de dédoublement, ça le convainc, et en revanche il me dit pour gratter le texte de la fin du 14e pour essayer de trouver le noyau 13e, c'est très compliqué quoi, enfin on n'y arrive pas pour le moment, mais peut-être un jour on trouvera ce texte initial qui devait pas être bien long aussi, parce que la littérature martyrologique elle sur les saints nouveaux, enfin sur les saints martyrs nouveaux, on n'en a pas beaucoup d'exemples pour la fin du Moyen-Âge.
Ce que vous dites, est-ce que ça peut avoir une influence sur le sanctorat de l'ordre aujourd'hui? Je veux dire, parce qu'il y a deux moments différents, donc une fête en janvier des saints, oui. Et puis en octobre, je crois, hein, des sept.
Oui. Il n'est plus dans l'ordo, sauf pour les franciscains qui ont voulu le garder. Il n'est plus dans l'ordo du 10 octobre.
Juste retour de l'esprit critique. C'est comme les bollandistes qui ont fait à un moment. Ils ont expulsé de pauvres saints, estimant qu'ils étaient.
Petit mycèle des fidèles. Oui, il y a encore. Petit mycèle franciscain des fidèles pour des gens comme moi. Il y a encore les deux séries.
Il n'y a pas de. Enfin, c'est très suspect.
En 1985, qu'on a eu l'approbation du calendrier pour la France. Et après, c'est les Italiens, entre eux, des trois premiers ordres, qui ont manipulé un calendrier. Pour le premier ordre, ils n'ont rien demandé à personne. Et c'est 2000 ou 2001. Et là, ils ne figurent plus.
Oui. Ouais, à mon avis, il y a une petite suspicion. Il bon, faut être prudent, on ne va pas tous les éliminer quand même, mais de fait, non, en plus, dans le sanctoral, enfin pour... Oui, parfois on en ajoute, oui, ça c'est clair, oui. Non, mais bon, il faut faire la place au nouveau saint, et puis d'ailleurs, l'Église ne connaît pas tous ses saints, donc on peut être tranquille de ce côté-là. L'étude des martyrologes médiévaux, qui est un sport que j'ai un petit peu pratiqué, mais pas trop, parce que c'est bien, ça donne parfois enfin, quand on trouve quelque chose, c'est formidable, mais c'est assez aride, je dois le dire. Mais bon, il y a des choses étonnantes. Par exemple, figurez-vous que ces martyrs, bon, moi je me suis dit, c'est une affaire franciscano-franciscaine, quoi. Même si. Bon. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai mis à une étudiante à travailler sur les manuscrits de la Chartreuse du Mont Dieu. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien savoir. J'avais trouvé, alors par un cheminement, comme la recherche seule permet d'en avoir, j'étais arrivée dans le catalogue des manuscrits géographiques de Charleville, Verdun et Saint-Mihiel. Je ne sais plus ce que je cherchais, donc je cherchais quelque chose, et je ne sais plus comment je suis, donc ça c'était il y a déjà 2, 3, 4 ans en arrière. Et donc je feuillette ce catalogue, je regarde les manuscrits, voilà, donc je vois des recueils de légendes, donc des légendiers, des martyrologes, des choses comme ça. Et à un moment, je tombe sur une description d'un légendier. Donc c'est des manuscrits, en l'occurrence, conservés à Charleville-Mézières, qui ont tous appartenu à la Chartreuse du Bon Dieu. Et je regarde, voilà, le manuscrit numéro 59, pour la précision, de Charleville-Mézières, voilà, manuscrit 15e siècle, hein, légende, légendier, truc, tout. Tout à coup, je vois Patio des Frères de Tana. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire... Alors, le manuscrit, d'abord, n'est pas du... Je vais voir depuis. Le manuscrit n'est pas du 15e siècle. Le manuscrit est du 14e siècle. Pourtant, celui qui a fait le catalogue, voyant que c'était du papier, s'est dit que ça pouvait pas être... Ça pouvait pas être du... antérieur au XVe siècle, ce qui n'est pas un bon raisonnement. Donc le manuscrit est de la fin du XIVe siècle, d'après l'écriture, c'est assez clair. Et donc, il y a une passion des frères de Tanna. Alors, je ne vous raconte pas la déformation Tolentino, Tanna, ça devient Cavna, bon, bref, pas tout compris. Mais dans un légendier du Mont-Dieu, de la chartreuse du Mont-Dieu, qui a été réalisé. Alors, on a un magnifique colophon, c'est-à-dire un petit texte à la fin, enfin, c'est pas vraiment un colophon parce que c'est pas la fin du manuscrit, mais un petit texte du copiste de la première légende qui dit les circonstances dans lesquelles il a copié cette légende-là, qui n'est pas la légende des frères de Tanna, donc c'est le neveu du... j'ai oublié le détail, mais enfin, bref, c'est un neveu de quelqu'un qui est lié aux Chartreux. Donc ça a été fait vraiment par les Chartreux, fin 14e. Il y a cette passion dans le légendier qui comporte par ailleurs les vies de Saint-Leucot. Alors ça m'a ouvert des horizons. Car c'est pas une chose franciscaine. Bon, il y a toute une enquête à mener. Si un jour j'ai le temps, je la ferai, hein, dans les sources, dans les recueils hagiographiques sur les légendiers ou dans les martyrologes. Parce que, comme vous le savez peut-être, les martyrologes, par exemple le martyrologe d'Uzuar, le martyrologe de référence pour le XIVe siècle, était adapté en fonction des communautés dans lesquelles on le lisait. Donc il y a des martyrologes d'Uzuar à usage franciscain, utilisant les maisons franciscaines. Et donc les frères qui parfois acquéraient ces manuscrits, enfin ne les copiaient pas eux-mêmes en général, ou se les faisaient plutôt donner. Hein. Ensuite, il y avait toujours des frères pour compléter le martyrologe. Et, alors il y a tout un travail à faire là-dedans, et j'ai trouvé un manuscrit pareil à Angers, un manuscrit 800 de la Bibliothèque municipale d'Angers, c'est un peu loin de mes bases. Dans le manuscrit 800 de la Bibliothèque municipale d'Angers, qui est un martyrologe d'Uzuar à usage des maisons franciscaines, 15e siècle, je ne l'ai pas encore vu, il y a la passion aussi des frères de Tanna. Donc ça veut dire que ça a circulé, je pensais que c'était une chose franciscaine et pour le Moyen-Âge très italienne. Je pensais que c'était très italien parce que la plupart des frères sont des Italiens, enfin, sont originaires d'Italie. Et en fait, je ne crois pas. Donc en fait, c'est très bizarre parce que leur culte a été... leur culte, je ne sais pas en quoi il consistait, pour vous dire la vérité. J'ai un peu de mal à saisir parce que c'est des martyrs sans reliques pour 99,99% d'entre eux. Et surtout, c'est des martyrs... Comment vous dire ça? Moi, je trouve que c'est vraiment des êtres de papier et de parchemin, même s'il y a de la chair et du sang derrière. Mais vous voyez, dans la communauté, ils ont eu vraiment une vocation, je dirais, mémorielle forte, sans, pour autant que je sache, mais peut-être un jour je vous dirai le contraire, sans qu'il y ait eu le développement d'un culte particulièrement éclatant et visible pour le Moyen-Âge. Ensuite, à l'époque moderne, le nombre de couvents franciscains dans lesquels il y a le tableau représentant les martyrs de Marrakech, notamment, ou les martyrs de Ceuta, c'est incroyable. Et encore aujourd'hui, à Jérusalem, dans le couvent, pas aujourd'hui, mais il y a encore 30 ans, j'ai vu un livre avec une photo, il y avait une grande fresque représentant les martyrs de Jérusalem de 1391, qui prouve que...
Il n'y a pas la tête ou le crâne
Si, c'est le seul qui a des reliques.
Qui a été ramené par
Odéric de Pordenone. Il y en a un autre dont le reliquaire est à Venise, j'oublie son nom à l'instant, d'Erzincan de 1314. Il y a un petit reliquaire à Santa Croce. Pas Santa Croce, aux Frari, excusez-moi, à l'église des Frari, à Venise. Et donc il y a une très très belle collection de reliquaires quand on entre dans l'église, après on va derrière, sur le couvent. Il y a une très grosse vitrine avec plein de très jolis reliquaires et il y en a un qui est dédié à un martyr comme ça. Donc, voilà. Et qui est en l'occurrence quelqu'un de très très mal connu, il n'y a pas de passion, il n'y a rien. Mais ils ont la relique. Voilà.
Un immense merci Isabelle.
Merci à vous de l'invitation.
On va se restaurer. Je peux peut-être en profiter pour vous signaler un événement qui va se passer. On vous a dit tout à l'heure, on vous a parlé de l'apparition dans quelques 15 jours maintenant du nouveau Totum. On en est ici très heureux. Et j'en profite peut-être pour vous inviter un événement, c'est juste dans un mois, hein, mardi 13 avril 2010, peut-être un frère mineur peut-être en dira un mot, hein, j'ai l'impression qu'il va y avoir une lecture de texte issue de ce totum. Il y aura Mgr Jean-Pierre Grallet, donc l'archevêque franciscain de Strasbourg, il y aura Jacques Dallarin, il y aura d'autres participants, contributeurs à ce totum. Ça se passe donc le 13 avril à 20h30 chez les frères mineurs, rue Marie-Rose, hein, vous y êtes tous invités. Ils font souvent l'effort de venir ici, je crois qu'on peut faire une fois, n'est pas coutume, l'effort, c'est pas un effort du tout, c'est vrai, enfin, on aura la joie d'aller chez eux cette fois-ci. 13 avril, 20h30.
Ils seront donc le 13 avril.